Eh bien, il y a de vraies solutions à tous les vrais problèmes émotionnels. Eh bien, des fois, elles se réduisent à faire les bons choix. Vous ne croyez pas que c'est très simple, mais laissez-moi partager davantage. Restez donc à l'écoute et découvrez. Il y a des trucs qui arrivent aux gens dans la vie. Combien d'entre vous ont des trucs qui leur sont arrivés dans leur vie? Quand nous avons écouté le témoignage de ce jeune homme ce matin, il nous a parlé des trucs qui lui sont arrivés. Je ne sais pas quel âge il a, je l'appelle le jeune homme parce qu'il avait l'air jeune. Mais avec tout ce qui lui est arrivé, il a vécu pour quelque temps. Et si vous n'étiez pas là pour l'écouter, son histoire est que son père était un homme coléreux et très violent. Donc tout le monde vivait dans la peur permanente, tout le temps. Je peux très bien comprendre ça. J'ai grandi dans la peur. Tout était la peur, la peur, la peur d'exaspérer papa. Sa mère et son père avaient divorcé quand il avait environ 8 ans. Il aimait avoir un père. Son père apparaissait dans sa vie et disparaissait. Il disparaissait plus qu'il n'apparaissait et il a grandi dans l'insécurité, désirant l'approbation et l'acceptation d'un père qui ne savait pas vraiment les lui donner. Je crois qu'une des choses les plus frustrantes au monde, c'est de passer sa vie à essayer d'avoir quelque chose de quelqu'un qui ne sait pas vous le donner. Amen. Mais Jésus est devenu notre remplaçant. Il a non seulement pris sur lui nos péchés, mais encore devenu pour nous tout ce que nous n'avons pas eu et que nous étions censés avoir dans notre vie avant lui. Il dit que si vous n'avez pas de famille, il vous adoptera. Si votre mère et votre père vous abandonnent, il vous adoptera comme son propre enfant. Si vous êtes solitaire, il vous mettra dans une famille. Une famille spirituelle. Il s'occupe de tous les aspects de votre vie. Eh bien, ce jeune homme a fait ce que tant de nous font. Il est devenu un bourreau de travail pour essayer de réussir et pouvoir, avec un peu de chance, être fier de lui-même. Et probablement, une partie de lui voulait impressionner son père. C'est intéressant pour moi. Au moment où Dieu a commencé à m'utiliser de la façon dont il m'utilise maintenant, j'ai voulu que mes parents soient fiers de moi, bien que j'eusse une relation terrible avec eux. J'ai voulu qu'ils me disent « Nous sommes fiers de toi ». Et je n'ai jamais eu ça que quand ça n'avait plus d'importance. Parce que je prenais de Dieu tout ce dont je voulais et j'avais besoin, mais Dieu m'a donné ça également. Nous essayons parfois de nous procurer des choses que Dieu veut nous donner parce qu'il veut vraiment que nous comptions sur lui en toute chose, surtout notre sécurité et notre valeur personnelle. La Bible dit, ne mettez pas votre confiance dans la chair, mais seulement en qui vous êtes en Jésus-Christ. Donc je suis tout à fait sûre qu'il est devenu un bourreau de travail et un homme très prospère parce qu'il cherchait l'importance et la valeur. Mais vous voyez, pendant ce temps, il ne traitait pas ses problèmes. Il les mettait de côté. Et quand vous mettez vos problèmes de côté, vous ne les surmonterez jamais. Ils continueront à vous faire du mal et continueront à vous faire du mal. Donc, il est devenu policier et il était un très bon policier. Il était affecté au gouverneur, mais il avait toujours ses problèmes. Et finalement, sa vie a commencé à s'effondrer, car à dire vrai, on ne peut cacher les problèmes que momentanément. On ne peut cacher les problèmes que momentanément. Et finalement, ils vont sortir quelque part. Quel que soit le nombre de fois où vous allez à l'église par semaine, ou le nombre de CD que vous avez, ou le nombre d'albums de musique, si vous avez de l'amertume au-dedans de vous, ou du ressentiment, ou du non-pardon, ou de la colère, cela va sortir d'une façon ou d'une autre. Ou si vous avez vraiment réussi à les dissimuler, ils vont vous tourmenter et un jour, vous allez soit imploser, soit exploser, l'une des deux. Donc, ça ne marche vraiment pas de cacher vos problèmes. Et si nous cachons nos problèmes, nous ne les surmonterons jamais. Mais Jésus nous a fourni un moyen pour être totalement, complètement rétabli. Vous comprenez ça? Et non seulement rétabli, mais je vais vous montrer dans un instant un verset qui dit qu'il vous donnera une double bénédiction pour votre ancienne honte et vos ennuis. Donc non seulement il vous rétablira, mais encore vous rendra mieux que vous ne le seriez si vous n'aviez jamais été blessé. Maintenant, je ne sais vraiment pas où vous pouvez décrocher une affaire comme ça. Donc l'homme qui a donné son témoignage ce matin, quand sa vie a commencé à s'effondrer, a fini par faire des choses criminelles et il a été en prison pour 10 ans. Et pendant qu'il était en prison, il a reçu le Christ comme son sauveur. Mais comme tous les chrétiens, quelque chose a changé dans son esprit, mais il avait besoin d'un changement dans son âme. Quand nous sommes régénérés, Dieu vient vivre dans notre esprit. Nous recevons sa nature dans notre esprit. Mais quelque chose devrait changer dans notre âme. Notre esprit est la partie profonde de nous, mais l'âme, vous pouvez dire qu'elle est la deuxième couche. Et ensuite, le corps, comme vous voyez mon corps en ce moment, c'est comme la dernière couche. C'est la couche que vous voyez. Eh bien, Dieu a fait beaucoup de grands trucs dans mon esprit, mais si mon âme ne guérit pas, bien que je sois une personne qui est régénérée, elle va toujours être un gâchis. Et c'est pour cette raison que le christianisme, bien des fois, a mauvaise réputation, parce qu'il y a tant de croyants qui ont l'autocollant, le pin de Jésus, les boucles d'oreilles en croix, la croix autour du cou, le magnétophone. Ils vont à l'église, mais ils n'ont aucun fruit. Et ils ont toujours du mauvais fruit parce qu'ils ont toujours de mauvaises attitudes. Ils pensent toujours à des futilités. Ils vivent toujours d'après leurs sentiments et leurs volontés. Et la Bible dit exactement ce que nous sommes quand nous sommes comme ça. Nous sommes charnels. Nous sommes des chrétiens charnels. Cela ne veut pas dire que nous n'irons pas au ciel, mais cela veut dire que nous ne jouirons pas du voyage et que nous ne serons pas des témoins à quiconque tant que nous sommes dans cette condition. Et malheureusement, croyez-moi, malheureusement, je suis très triste de le dire, de plus en plus de chrétiens sont comme ça. Et ce n'est pas toujours parce qu'ils veulent être comme ça. Parfois, c'est parce que personne ne leur enseigne d'une façon où ils peuvent dire « Oui, je comprends ça. » Car parfois, nous pensons « Eh bien, si ça fait mal, ça ne peut pas être de Dieu. » Mais ce n'est pas vrai. Si jamais vous tombez et vous vous écorchez sérieusement le genou, ça fait mal. Mais vous savez quand ça fait vraiment mal? Quand ça commence à guérir et que vous avez une croûte dessus. Et nous sommes si tentés d'arracher cette croûte. Mais si vous faites ça, vous aurez une cicatrice. Et c'est ce qui arrive à tant de personnes qui ont tout ce rebut émotionnel. Eh bien, cet homme, heureusement, n'arrêtait pas de poursuivre Dieu. Il a écouté mon enseignement sur le champ de bataille de la pensée, et je suis sûre l'enseignement de beaucoup d'autres personnes. Et il a commencé à appliquer ses principes à sa vie. Et Dieu a complètement retourné la situation. Et finalement, il a eu le courage d'aller et d'affronter son père. Dieu l'a béni et il a pu mener son père à une relation avec Jésus-Christ. Il a eu l'occasion de le baptiser et il a passé la dernière année de la vie de son père à lui enseigner la parole de Dieu. C'était vraiment une victoire. Donc, je crois que Dieu a un plan. Et je crois vraiment qu'il veut tellement guérir ceux qui souffrent. Nous pouvons souffrir de différentes façons. Nous souffrons de la solitude, de la déception. Nous pouvons souffrir du rejet, de la crainte, de l'insécurité. Il y a beaucoup de façons dont nous pouvons souffrir. Une des choses les plus douloureuses dans la vie, je crois, c'est de se sentir mal dans sa peau. De ne pas s'aimer soi-même et d'avoir toutes ces insécurités au-dedans. Et je crois qu'avant de pouvoir aimer n'importe qui d'autre, vous devez vous aimer vous-même de façon équilibrée. Donc, quand Dieu vient d'abord dans notre vie, La Bible dit que l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, la première chose qui arrive, c'est que vous avez un téléchargement de l'amour de Dieu. Mais vous devez le recevoir. Ne dites pas « je n'en ai pas le droit, je ne l'ai pas mérité ». Recevez-le et soyez-en reconnaissant. Et ensuite, prenez cet amour et laissez-le travailler. Dieu m'aime, il m'aime. Dieu m'aime, et bien sûrement, si Dieu m'aime, je pourrais peut-être me respecter et avoir une meilleure relation avec moi-même. Et ensuite, quand tout ceci est réglé, vous pouvez commencer à lui rendre son amour et aimer les autres, et le cycle de Dieu s'accomplit comme ça. Je crois que quand les gens souffrent, Dieu veut les guérir. Je crois que Dieu veut les aider. Mais je ne crois pas qu'il veut que cela s'arrête là. Je crois qu'il veut que nous nous préparions à aider les autres. Je l'exprime comme suit, souffrir, guérir et être prêt à aider. Il y a les gens qui souffrent et qui restent souffrants. Il y a des gens qui souffrent et passent toute leur vie à la recherche de leur guérison. Mais je crois qu'il y a très peu de gens qui souffrent vraiment dans la vie, laissent Dieu les amener à la guérison et laissent ensuite leur souffrance et leur douleur devenir un profit aux autres. Vous m'avez entendu? Peut-être que c'est une nouvelle idée. Je suis sûre que si vous écoutez mon enseignement, vous savez que j'ai été victime d'abus sexuels par mon père pour beaucoup d'années, maintes et maintes fois, semaine après semaine. Peut-être que ceci est arrivé à vous. Ça arrive aux hommes et aux femmes. Ça arrive aux garçons et aux filles. Ce pourrait être un parent proche ou un ami, mais c'est presque toujours quelqu'un en qui nous avions confiance. Et cela peut nous traumatiser, car nous devons nous fier à Dieu par après pour fonctionner spirituellement. Et quand quelqu'un en qui vous aviez confiance et qui était censé vous aimer abuse de vous, cela perturbe votre pensée, vos sentiments, la façon dont vous voyez les choses et dont vous voyez les relations. Tous ces trucs me sont arrivés et ma mère ne savait vraiment pas ce qu'il fallait faire et donc elle n'a rien fait. À l'époque, personne ne parlait de trucs comme ça, non pas comme on fait aujourd'hui. Elle avait épousé mon père quand elle avait 17 ans, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Et nous voilà, j'avais mon problème qui se passait et personne pour m'aider. Mais Dieu merci, quand j'avais 9 ans, j'ai reçu le Christ comme mon sauveur. Je ne sais même pas comment j'ai su que j'avais besoin d'être sauvée, mais je savais que j'avais besoin du Christ dans ma vie, donc je me suis glissée à l'église avec quelques parents. Et je suis allée avec deux de mes cousines dans le but d'être sauvée, et je leur ai dit « nous allons être sauvés ce soir ». Donc je suppose que même à l'âge de 9 ans, j'avais en moi un peu d'un évangéliste. Et comme beaucoup d'autres personnes, je suis allée à l'église pour de nombreuses années. Je n'ai vraiment pas eu l'occasion d'aller à l'église avant mes 20 ans et mon mariage avec Dave. Donc, je ne croyais pas que l'expérience avec Dieu m'avait profité. Mais je réalise que bien que je n'ai pas su communiquer avec Dieu, il était avec moi. Quand il vient dans notre vie, il ne nous laissera point et il ne nous abandonnera point. Donc, laissez-moi vous dire que même quand vous ne sentez pas qu'il est là ou que vous ne croyez pas qu'il écoute vos prières, il ne vous laissera et ne vous abandonnera point. Il compte les cheveux de votre tête, il recueille vos larmes dans son outre. Et indépendamment de ce que le diable vous dit, Dieu a vraiment un bon plan pour votre vie. Et non seulement la vie de tous les autres, il a un bon plan pour votre vie. Mais le meilleur moyen au monde de gâcher ce plan, c'est de savoir ce que vous devez faire et de décider de ne pas le faire parce qu'il est difficile et d'essayer de vous en tirer à bon compte. Mais ça n'arrivera jamais. Même après que Dave et moi avons commencé à aller à l'église, mince alors, j'ai eu des années difficiles, difficiles, difficiles. Et quand vous traversez une période difficile, vous rendez la vie difficile à tous ceux qui essayent d'être en relation avec vous. Est-ce que quelqu'un ici sait que c'est difficile d'être en relation avec quelqu'un qui est traumatisé émotionnellement et qui a des problèmes dans sa vie? Et donc, même si vous ne voulez pas changer pour vous-même, vous devez vous y prendre et laisser Dieu faire un travail dans votre vie pour ceux qui sont votre famille et vos amis. J'ai eu finalement l'occasion de mener mon père à Jésus-Christ. Je suis arrivée à un point dans ma vie où Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit, je veux que tu ramènes tes parents à Saint-Louis parce qu'ils vivaient à 400 km d'où je vivais à Saint-Louis. Et je veux que tu t'occupes d'eux jusqu'à leur mort. Eh bien non, mais tout en moi disait non. Ce n'est pas de Dieu. Mais ça a persisté et j'avais déjà assez d'expérience avec Dieu pour savoir que quand ça persiste, vous feriez aussi bien d'écarter vos excuses et d'aller faire ce que Dieu vous dit de faire, car rien d'autre ne va le satisfaire et vous allez être malheureux. Donc bref, nous avons fait pour 3 ans ce que Dieu nous a dit de faire, aucune réaction. Mon père était toujours aussi méchant qu'un serpent. Mais finalement, un jour, tout a changé. Combien d'entre vous connaissent un jour? Lundi, il paraît que vous avez le même problème puant que vous aviez eu pendant les 40 dernières années. Et mardi soir, vous allez vous coucher sans ça? Il n'y a qu'une seule chose dont vous devez vous occuper. Ne vous inquiétez pas de ce que font tous les autres. Vous devez juste faire ce que vous croyez vraiment que Dieu vous dit de faire. Et vous devez continuer à le faire, et 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 continuer à le faire. Et quand vous vous fatiguez tellement de le faire que vous voulez crier, à ce moment-là, dites « Je vais le faire encore, et je vais le faire encore, et je vais le faire encore. » Car les diligents reçoivent une récompense de Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je crois que nous faisons trop de choses pour avoir un résultat et pas assez de choses parce que simplement Dieu l'a dit et que nous l'aimons. Et je serai heureuse de le dire encore une fois parce que je crois vraiment que c'est très important. Je crois que trop de personnes font des choses bibliques, juste pour avoir un résultat. Nous payons la dîme juste pour avoir plus d'argent. Nous faisons ceci et cela juste pour avoir quelque chose que nous voulons. Eh bien, vous savez quoi? Il y a une récompense pour celui qui obéit à Dieu et nous moissonnons ce que nous semons. Mais nous devons le faire juste parce que Dieu nous dit de le faire et juste parce que nous l'aimons vraiment. Par conséquent, quand nous n'obtenons pas le résultat que nous voulons, quand nous le voulons, il est hors de question de nous demander si nous continuons à faire ce que Dieu nous a dit de faire, car nous ne le faisons pas avec un mauvais motif pour commencer. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Et il n'y a pas de mal à ça. Vous savez, je peux voir que ça ne vous enthousiasme pas. Il y a des promesses et il y a des récompenses. Mais vous devez toujours faire attention à vos motifs. Faites attention aux motifs pour lesquels vous faites les choses, car les motifs purs sont une des choses les plus importantes pour Dieu. Il est extrêmement important que nous fassions ce que nous faisons avec un bon motif. Et vouloir en profiter moi-même n'est pas le bon motif. Dieu s'occupera de nous si nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Donc, nous avons amené mon père et ma mère à Saint-Louis et finalement, 3 ans se sont écoulés. Mon père m'a appelé un jour en pleurant et m'a dit « Désolé de ce que je t'ai fait pendant ton enfance. » Ça faisait 33 ans que j'avais quitté la maison et il n'avait jamais, jamais même reconnu qu'il avait fait quelque chose. Bref, mon père a été sauvé par après et nous l'avons baptisé. Il est mort en me regardant. Il n'est pas mort parce qu'il me regardait à la télé, mais quand il est mort, il était en fait « Vous ne voudriez pas regarder non plus. » Wow, vous pouvez mourir en la regardant, vous savez. Mais quand il est mort, et c'était il y a environ 1 an et demi, il me regardait tous les jours et me disait qu'il était fier de moi. Je n'en avais plus besoin. Mais j'ai eu ça. Dieu a bouclé la boucle pour moi. Allez à Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint et qualifié pour prêcher l'Évangile. C'est une parole prophétique d'Ésaïe sur l'avènement du Messie. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour prêcher l'Évangile de la bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres et aux affligés. Donc Jésus a été oint pour aider les affligés. Il m'a envoyé, j'aime ça, pour panser et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je n'en savais rien jusqu'à ce que j'ai lu ce verset il y a 32 ans, comme quoi Dieu se soucie de mes émotions. Je croyais que la prière du pécheur et accepter le Christ était pour que mes péchés soient pardonnés et pour aller au ciel. Je ne savais pas que ça avait à voir avec ce qui pourrait m'arriver sur cette terre. Il m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs physiques et spirituels et l'ouverture de la prison et des yeux de ceux qui sont liés ou dans l'esclavage, pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel, l'année de faveur de Dieu et le jour de la vengeance de notre Dieu. Bon sang, nous devons comprendre ce que la Bible veut dire quand elle dit que Dieu nous rendra justice. Et ensuite, quand il dit « à moi la vengeance », puis il continue à dire « je plaiderai les causes de mon peuple, je m'occuperai de leurs ennemis ». Mais il y a quelque chose que Dieu nous demande de faire, pardonner aux autres, prier pour ceux qui nous ont maltraités et les bénir. Ne les maudissez pas, bénissez-les. Et un des moyens de bénir vos ennemis est de ne pas médire d'eux. Ne publiez pas ce qu'ils vous ont fait. Une merveilleuse histoire sur Joseph dans la Genèse. Ses frères l'avaient vendu comme esclave et ils ont dit à leur père qu'il avait été tué par des animaux parce qu'ils le détestaient. Ils étaient jaloux de lui. Il avait fait un rêve pour sa vie et chose curieuse, les gens en veulent souvent à ceux qui rêvent de quelque chose de meilleur de ce qu'ils ont. Et donc Joseph a fini par passer 13 ans en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Dès son arrivée en Égypte, d'autres mauvaises choses lui étaient arrivées. Il semblait que partout où que Joseph allait, il payait les pots cassés. Mais pour autant que nous sachions de la Bible, il gardait toujours une bonne attitude et il se fiait à Dieu. Et dans le rêve que Joseph avait fait, il avait vu ses frères et son père se prosterner devant lui. Il s'était vu comme... J'ai oublié si c'était la lune ou les étoiles, et eux tous se prosternaient devant lui. Il a raconté son rêve, et cela ne leur a pas plu. Il aurait dû avoir un peu plus de bon sens. On ne raconte pas aux gens des trucs comme ça. Mais ça faisait partie de son voyage en Égypte. Il devait apprendre une certaine sagesse. Ce n'est pas car vous avez un appel sur votre vie que vous vous exprimez sans retenue. Certains d'entre vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie car vous savez que vous avez un appel sur votre vie et vous mourrez d'envie d'aller faire quelque chose. Et chaque fois que vous essayez de passer une porte, Dieu la claque à votre nez. Et vous ne comprenez vraiment pas et cela vous frustre et vous exaspère et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Eh bien, bien-aimé, Dieu vous cache et il vous polie. Il fait de vous une flèche aiguisée et au bon moment, il décochera la flèche et ce sera la bonne cible